7h39 sur France Culture, nos invités des matins. Il y a un an exactement, le prix Nobel de la paix chinois Liu Xiaobo décédé en prison, condamné en 2009 à 11 ans de détention pour subversion. Cette semaine, on apprenait la libération de sa veuve, la poétesse Lucia, arrivée à Berlin désormais, et la condamnation aussi du dissident Qin Yongmin à 13 ans de prison. Plus près de nous, alors que le mondial de foot touche à sa fin, la mobilisation continue pour la libération d'Oleg Sentsov, opposé à l'annexion de la Crimée par la Russie. Le cinéaste ukrainien a été condamné à 20 ans de prison pour terrorisme en 2015 à l'issue d'un procès dit stalinien par Amnesty International. En Turquie, fonctionnaires, journalistes, écrivains, magistrats ont toutes les raisons de s'inquiéter depuis lundi, jour d'investiture pour le président Erdogan, après sa victoire à la présidentielle de juin avec des pouvoirs élargis et un état d'urgence maintenu pour, je cite, « étouffer toute forme de dissidence et de critique » selon le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. De la Chine à la Russie, en passant par l'Iran, la Turquie ou encore le Vietnam, cartographie aujourd'hui des nouvelles dissidences et résistances, chèrement payées, durement réprimées avec nos deux invités, la sinologue Marie Holzmann, présidente de l'association Solidarité Chine, auteure de « Chine, on ne bâillonne pas la lumière ». Vous avez également préfacé « Dans l'Empire des Ténèbres », un écrivain dans les geôles chinoises, le témoignage de l'auteur de « Massacre », un poème consacré au drame de la place Tiananmen. Bonjour à vous Marie Holzmann.
Bonjour.
À vos côtés, le philosophe Michel Elchaninov, auteur de « Les nouveaux dissidents » paru chez Stock et président de l'association éponyme. Bonjour.
Bonjour.
Vous commencez d'ailleurs cet ouvrage, hein, « Les nouveaux dissidents » sur ces nouvelles formes de dissidents, ces nouvelles figures aussi, les modes d'action et les raisons de cette lutte par une même litanie en quelque sorte, des portraits, des noms dans l'actualité sur l'ensemble de la planète, de voix qui se sont élevées à un moment ou à un autre contre des régimes. Depuis deux semaines, Michel Elchaninov, réalisateur et écrivain, se mobilise en France pour la libération d'Oleg Sentsov. Quelle pression peut exercer Emmanuel Macron? Aura-t-il son mot à dire quand il ira en Russie ce week-end encore pour la finale de la Coupe du Monde?
Alors Emmanuel Macron a déjà parlé d'Oleg Sentsov, d'ailleurs à la demande de la société civile, des associations et de tous ceux qui se mobilisent depuis des mois pour Sentsov. Il en a parlé lors de sa visite à Saint-Pétersbourg, vous savez, au Forum économique fin mai. Il en a parlé en privé et puis quand on lui a posé la question à la conférence de presse, il en a parlé en public. Il a dit qu'il se permettait de dire à son homologue russe qu'il y avait des prisonniers politiques, des prisonniers de conscience. Vladimir Poutine a réagi de manière assez dure, le visage fermé. Il a fait semblant de considérer que Sentsov n'était pas un cinéaste, ce qu'il est, mais un journaliste. Donc vous voyez, manière assez fourbe de changer de sujet, de dire que voilà, ça l'intéressait pas tellement. Mais alors, comme la pression effectivement de la société civile, de beaucoup d'intellectuels, d'artistes continue, eh bien Emmanuel Macron va se rendre pour la finale, donc dimanche à Moscou. Il va rencontrer Vladimir Poutine et nous faisons notre maximum évidemment pour que non seulement il en parle à Vladimir Poutine, mais pour qu'il lui propose des choses, qu'il lui propose peut-être d'accueillir Sentsov en France pour des raisons humanitaires et de santé, parce que Sentsov aujourd'hui en est à son 61e jour de grève de la faim. Vous savez, le républicain irlandais Bobby Sands, en 1981, grand résistant à la politique de Thatcher à l'époque, est mort au bout de 66 jours. C'est-à-dire que quand on est dans ce niveau de grève de la faim,
le temps presse, Michel.
Le temps presse évidemment. Oui. Donc aujourd'hui, c'est 66 jours de grève de la faim. Macron sera à Moscou dimanche, donc on espère que il va se passer quelque chose de très concret en fait.
Alors écoutons ces mots à l'issue de son procès en 2015.
Je voudrais dire que je ne vais pas nettoyer la fenêtre de ma cellule ou fumer au 6e étage ou encore commettre toute autre action suicide de ce type, et ce, malgré les menaces que j'ai reçues pour agir dans ce sens. Je souhaite aussi protester contre les tentatives en vue de me priver de ma citoyenneté ukrainienne. J'étais et je reste un citoyen ukrainien. Je n'accepte pas l'annexion de la Crimée ou son invasion militaire par la Russie. Je considère invalides tous les traités signés par le gouvernement illégitime de Crimée avec la Russie. Je ne suis pas un paysan. Je ne me laisserai pas aisément transférer.
Michel Elchaninov, vous évoquiez les raisons de ce procès, vous évoquiez aussi cette grève de la faim et ce corps mobilisé pour résister jusque dans la prison. Est-ce qu'il fait partie, Oleg Sentsov, de ces nouveaux dissidents que vous nous racontez dans cet ouvrage, par son mode d'action, par sa contestation, mais aussi par sa résistance dans les prisons russes?
Oui, clairement, parce que d'abord, sa protestation est pacifique. Hein. On l'a accusé d'avoir voulu préparer des attentats contre des statues de Lénine, qui n'ont jamais eu lieu, on a inventé des preuves. D'ailleurs, un des témoins qui, à charge, s'est rétracté ensuite en disant qu'on l'avait torturé pour charger Sentsov. Donc, il y a eu un procès truqué pour des actions qui sont non violentes, qui se font à visage découvert. Hein, Sentsov n'est pas un militant caché. Et puis, qui se font dans une démarche très personnelle. Quoi. Sentsov, c'est un cinéaste assez connu dans l'espace post-soviétique pour son film Gamer il y a quelques années. Mais c'est aussi quelqu'un qui est pour une Ukraine européenne, donc qui a protesté contre l'annexion de son pays. Aujourd'hui, il est en prison. Et effectivement, à l'issue de son procès, dans les mots qu'on vient d'entendre, il y a aussi toute l'attitude du dissident qui est une position de refus en bloc d'une pseudo-légalité qui s'est installée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les fonctionnaires du Kremlin expliquent qu'ils ne peuvent pas libérer Sentsov parce qu'il est russe, parce qu'il est né en Crimée, qui est devenu russe. Sentsov, lui, très tranquillement, a dit dans ses mots qu'il ne se considérait pas comme russe, il est né en Ukraine, la Crimée est ukrainienne. Et donc, vous voyez, il y a cette espèce de courage de la vérité, comme disait Michel Foucault, qui s'exprime dans ce refus en bloc d'entourloupe juridique.
Marie Elsman, il y a quand même un précédent, un petit précédent, mais quand même grande victoire cette semaine, la libération de la poétesse Lucia, qui a pu quitter le pays et venir aujourd'hui à Berlin où elle a été accueillie. Un exemple à suivre peut-être de la part des diplomaties, de la part des représentants politiques, c'est celui d'Angela Merkel qui a contribué, elle n'a pas été la seule voix, mais à la libération de cette femme.
Effectivement, Lucia était une victime d'une innocence totale. On a rarement atteint un tel degré d'innocence. Parce que son mari, Lucia Obo, prix Nobel de la paix, avait été condamné en 2008 à 11 ans de prison, a obtenu le prix Nobel de la paix en 2010, et c'est à partir de 2010 qu'elle a été placée en résidence surveillée. Et c'était une résidence surveillée très très dure. Elle ne voyait pratiquement personne. Lorsqu'elle allait manger avec sa mère, elle était accompagnée par la police. Quand elle allait faire des courses, elle était suivie. Enfin, c'était assez invraisemblable et elle a exprimé à de nombreuses reprises son état dépressif, son désespoir. Une fois, des gens ont essayé d'aller lui rendre visite, ont forcé le passage avec ses gardiens en bas de son immeuble. Et les représailles du gouvernement chinois ont été très rapides. Ils ont arrêté son frère Liu Hui et l'ont condamné à 11 ans de prison. Un peu comme si, ton mari a 11 ans, ton frère a 11 ans, et alors? Et c'était un peu un « et alors » tourné vers les Occidentaux. Hein, voilà ce qu'on fait aux entre guillemets, opposants chinois. Et vous faites quoi? Et donc, après la mort de Liu Xiaobo, tout le monde s'est attendu à ce que Liu Xia, on la laisse tranquille quand même. Eh bien non, elle a continué à être en résidence surveillée et elle a dit « on me transforme en plante en pot ». C'est-à-dire quand il y avait quelque chose qui se passait à Pékin, on l'éloignait, on l'envoyait au Yunnan, à 2000 km de là ou n'importe où. Et elle n'avait toujours pas sa liberté et elle réclamait de plus en plus énergiquement le droit de quitter la Chine.
Une fonction
ce droit
sévère,
qu'elle a fini par obtenir avant-hier, et elle est arrivée à Berlin. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir sur les photos son sourire. On l'a vue tellement souvent en pleurs, déprimée, et on pensait qu'elle était en quelque sorte irrécupérable, et pas du tout. Son énergie est là entière et c'est très consolant.
Et les bras ouverts, presque en croix, avec effectivement un grand sourire. Écoutez, là encore, ces mots, c'était il y a 4 ans, elle avait rassemblé ses forces à l'occasion d'une apparition vidéo qu'elle avait pu faire, où elle lit un de ses poèmes, le thème « La solitude ». Est-ce un poème? Est-ce un arbre? C'est moi toute seule, dit-elle. Est-ce un arbre en hiver? C'est ainsi durant toute l'année. Où sont les feuilles? Les feuilles sont au-delà. Pourquoi dessiner un arbre? J'aime quand il se tient. N'es-tu pas fatiguée d'être un arbre toute ta vie? Même quand je suis épuisée, je veux me tenir droite. Y a-t-il quelqu'un avec toi? Il y a des oiseaux, je n'en vois aucun. écoutent le son de leurs ailes dans l'air. N'est-ce pas beau de dessiner des oiseaux dans les arbres ? Je suis trop vieille pour les voir, je suis aveugle. Peut-être tu ne sais pas du tout dessiner les oiseaux. Tu as raison, je ne sais pas comment. Tu es un vieil arbre têtu, je le suis. Voilà un extrait d'un de ses poèmes, celui de Lucia, qu'on pouvait entendre par ces mots. Des dissidents pacifistes, Liu Xiaobo emprisonné pour ses propositions de révision de la Constitution. C'est là encore une autre figure de ces nouveaux dissidents qui ressemblent, et vous le rappelez, Michel Tchaninov, étrangement aussi aux anciens. Marie Holzmann, il faut peut-être raconter un peu la situation en Chine aujourd'hui, après une relative libéralisation dans les années 80. Il y a comme une chape de plomb qui semble bel et bien être retombée sur les voies un peu critiques en Chine depuis les événements de Tiananmen. Est-ce que l'arrivée à la tête du pays de Xi Jinping n'a rien changé ?
Elle a changé beaucoup de choses.
En pire ou en mieux ?
En bien pire. Durant les années 2000, il y a eu beaucoup de répression, d'arrestation, de condamnation, mais malgré tout, parallèlement à ça, la société civile était en train, en quelque sorte, de se constituer. C'est-à-dire qu'il y avait des gens courageux, ce qu'on appelait les avocats défenseurs des droits civiques, qui se portaient à la défense de certains citoyens, que ce soit des Tibétains persécutés pour leur identité, leur culture, que ce soit des paysans expropriés, que ce soit des dissidents mis en prison sous des prétextes divers. Et ces avocats ont fait bouger les lignes. C'est-à-dire que ils ont dit, bon, vous dites que vous voulez constituer un état de droit, eh bien, montrez-le, respectez vos propres lois, parce que la constitution chinoise n'est pas si mal. Il y a le droit d'assembler, le droit de manifester, enfin, tout est là, mais rien n'est respecté. Et justement, donc, ces avocats des droits civiques rappelaient aux citoyens chinois, vous devez vous présenter comme des citoyens et non pas comme des sujets. Xu Zhiyong, d'ailleurs, signait toujours son nom, citoyen Xu. Pour ça, il a fait 4 ans de prison. 4 ans de prison. Depuis qu'il est sorti, on ne l'entend plus. Il a été matraqué, il a probablement été menacé que s'il parlait, il retournerait en prison. Et on assiste maintenant à des peines de prison comme on n'a jamais vu. Qin Yongmin, on vient de l'apprendre, le jour même de la libération de Liu Xia, a été condamné à 13 ans de prison. Nous sommes stupéfaits parce que Qin Yongmin, alors c'est purement un délit d'opinion. Il a écrit quelques textes, il a tout le temps continué à dire qu'il fallait un état de droit, que la Chine était dans l'ONU, étant dans l'ONU, elle devait respecter les valeurs universelles, etc., etc. Il n'a jamais menacé personne de quoi que ce soit. Ce n'est pas un violent. Le pire, c'est que Qin Yongmin a maintenant 64 ans et qu'il a déjà fait 2 peines de prison qui le mènent à déjà 22 ans de prison. Donc si on ajoute les 13, ça va en faire 35. C'est inimaginable. Mais maintenant, la population chinoise commence à vraiment grogner, quoi. Il y a des façons de s'exprimer qui utilisent plutôt l'humour qu'autre chose. Il y a beaucoup d'allusions à la stupidité de Xi Jinping sous toutes ses formes.
Et ça passe par quoi ? Par les réseaux sociaux, beaucoup ?
Des formes assez grotesques. Et ça passe par des images. Parce que les textes sont censurés. Il y a des analyses, et puis dès qu'on trouve un mot, hop, on censure. Mais les images sont plus difficiles à censurer. Donc maintenant, les gens postent sur les réseaux internet des photographies de textes. Et du coup, les images restent pendant à peu près 2 jours. Avant la censure. Et les photos de Liu Xia rayonnantes sont restées pendant 2 jours sur les réseaux chinois.
Au fond, Michel Tchaninov, contre quoi tous ces dissidents de la Chine à la Turquie, en passant par la Russie jusqu'à l'Iran, entrent-ils en dissidence ou en résistance contre quoi ?
Contre l'impossibilité qui leur est donnée d'exercer leur droit de citoyen. Marie Holzmann vient de rappeler qu'il y a une tactique dissidente qui est très importante et très connue, qui est de retourner le droit contre ceux qui les dictent. Et c'est ce que faisaient exactement les dissidents soviétiques dans les années 60-70. Vous prétendez être un État légal, eh bien, faites-le, respectez-le. Donc, que nous ayons le droit de vivre pleinement nos droits. Le problème, c'est pour ça qu'il y a des nouveaux autoritarismes, des nouvelles formes de dictature et des nouvelles dissidences, c'est que le pouvoir s'adapte. Aujourd'hui, par exemple, en Russie, eh bien, on dit qu'on respecte le droit, le pouvoir dit qu'il respecte le droit, alors qu'en fait, la plupart des procès ayant des traits politiques, sont truqués, entièrement truqués. Donc, c'est plus difficile de dire à l'État « respectez le droit ». Aujourd'hui, quand Emmanuel Macron demande à Vladimir Poutine de libérer un prisonnier comme Sentsov ou Serebrennikov, Poutine lui répond « mais nous sommes un État de droit, il y a séparation des justices, on ne peut pas ». Donc en fait, il y a une adaptation permanente et comme une forme de course-poursuite et de jeu de chat et de la souris entre les nouveaux autoritarismes et les nouvelles dissidences. Et il y a de la créativité des deux côtés. Il y a de la créativité étatique pour justement faire croire qu'on est légaliste, mais heureusement, il y a de la créativité dissidente.
Et Marie Holzmann nous disait « Tout est écrit dans la Constitution en Chine, mais rien n'est respecté ». Est-ce que c'est pas là aussi une des particularités de ces nouvelles dissidences? C'est de manifester par leur action que nos démocraties, ces démocraties, sont aussi en train de s'assécher.
Alors, ça c'est une grande question, parce que ce à quoi nous sommes peut-être en train d'assister dans le monde entier, c'est aussi une transformation de nos démocraties chez nous, en Europe occidentale et aux États-Unis, dans d'autres pays, une transformation de nos démocraties en quelque chose de nouveau, où finalement les valeurs, disons, qui ont été promues dans après-guerre, dans les années 50, 60, 70, sont peut-être en train de s'affaisser au profit de nouvelles aspirations vers le autoritarisme, vers l'identitarisme, etc. Donc on est en train d'assister à quelque chose qui vient parfois de loin, qui peut venir de Chine, qui peut venir de Russie, qui peut venir de Turquie, c'est-à-dire des régimes qui prétendent incarner une volonté populaire, une sorte de démocratie d'acclamation, mais sous des formes autoritaires et identitaires, et qui aujourd'hui, avec ce qu'on appelle les démocraties illibérales en Europe de l'Est notamment, mais qui s'approchent de plus en plus de l'Europe de l'Ouest, avec ce qui se passe aujourd'hui en Italie, etc., ou la montée des partis d'extrême droite en Allemagne, est en train de s'approcher de nous. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la dissidence, qui est une expérience qui, il y a quelques années, nous paraissait encore lointaine, voire exotique, aujourd'hui, en tout cas demain, ne sera pas forcément une expérience totalement absurde. Alors, je ne prétends pas de dire qu'aujourd'hui, la France et l'Allemagne vont se transformer en la Turquie, la Chine ou la Russie. Non. Mais il se passe des phénomènes aujourd'hui en Europe qui sont très inquiétants et qui font que regarder très attentivement ce qui se passe en Chine, en Turquie, en Russie, en Iran et ailleurs, peut-être est riche d'enseignement pour nous aussi.
Marie Holzmann.
Oui, quand j'entends nouvelle dissidence, personnellement, je suis un peu déprimée parce que j'ai commencé ma carrière de défenseur des droits de l'homme en 1978, lorsque Wei Jingsheng a été condamné à 15 ans de prison. Mais là où il y a une différence, c'était la réaction du public occidental. C'est-à-dire qu'il y a eu des manifestations de centaines, voire peut-être de 1000 personnes à Paris contre cette condamnation de Wei Jingsheng. Mais après, j'ai passé mon temps à défendre des gens qui étaient condamnés à 10 ans. Et regardez, Qin Yongming, il y a deux jours, il est condamné à 13 ans. Le régime n'a pas changé, c'est toujours le régime communiste. Un seul parti, un seul dictateur et pas de faille dans le système. Donc pour moi, il n'y a rien de nouveau là. Mais par contre, ce qui est nouveau, c'est la réaction de l'Occident. Maintenant, essayer de mobiliser du public pour aller dans la rue pour défendre Qin Yongming, je m'excuse, mais je vais même pas essayer. Et à moi, on me dit, mais qu'est-ce que tu fais là à essayer de donner des leçons à la Chine? Je leur dis toujours, je ne fais que transmettre les revendications des Chinois. Mais maintenant, on nous dit, la Chine est efficace. Alors, bon, les revendications des Chinois à la dignité, parce que finalement, tous ces gens-là se battent pour quoi? Pour vivre dignement. Ou, comme a dit Liu Xiaobo, pour vivre dans la vérité. Ils cherchent pas la lune, hein. C'est des choses très simples. Mais ça, c'est de moins en moins entendu chez nous.
Mais ça peut questionner aussi l'impact aujourd'hui, les conséquences de ces mobilisations qu'on peut faire ici en Europe, en France, contre certaines de ces situations. On l'a vu récemment depuis deux semaines avec France Culture d'ailleurs, hein, Michel Tchaninov, vous êtes mobilisé pour Oleg Sentsov à travers des textes d'écrivains de Geneviève Brisac, aussi à Christiane Taubira, à travers la voix de cinéastes comme Jacques Audiard qu'on a diffusé sur l'antenne. En fait, est-ce que à un moment ou un autre, on n'a pas aussi baissé les bras, pas simplement parce qu'on n'y croit plus, mais parce que ça n'a plus vraiment d'effet?
Moi, je pense qu'il faut dire deux choses. D'abord, on est en train de vivre un changement de paradigme, mais en fait, on le dit un peu tard. C'est-à-dire que dans les années 90, il y a eu un immense mouvement de foi dans les droits de l'homme et dans les droits d'homme internationaux. Et à ce moment-là, dans les années 80-90, il y a eu même une grande polémique intellectuelle très intéressante sur le fait de savoir si les droits de l'homme peuvent devenir une politique. politique, s'il faut faire une politique des droits de l'homme ou être resté réaliste en politique, etc. Une question ouverte, discussion intellectuelle très intéressante. Aujourd'hui, si on suit par exemple un politologue bulgare qui a écrit un livre passionnant qui s'appelle Le destin de l'Europe, ce politologue s'appelle Ivan Krastev nous explique qu'aujourd'hui on a changé de paradigme. Aujourd'hui, il y a beaucoup de peuples qui ne veulent plus entendre parler des droits de l'homme. Ils ne veulent plus de migrants, ils veulent fermer les frontières, etc. C'est ce qui se passe dans certains pays d'Europe de l'Est, c'est ce qui se passe aussi dans certaines de nos sociétés, évidemment. Donc, on est dans un nouveau monde. On est dans un monde qui, aujourd'hui, est attiré aussi par des leaders identitaires, par des nouvelles formes de démocratie, des guides, etc. Donc ça, on est dans un nouveau monde, il faut le savoir. En revanche, baisser les bras, je ne crois pas. Je crois d'abord que nous sommes en train de vivre une époque de renouveau, quand même, de l'action en faveur des dissidents. Alors, il est évident que pour la Chine, rien n'a changé. Marie Holzman a raison. Marie Holzman en parle depuis des années. Rien n'a changé. Elle continue et il faut continuer. Pour le reste, je pense qu'il y a des nouvelles formes d'action, des nouveaux canaux et que l'attention à ce qui se passe ailleurs, parce que ça pourra se passer un jour plus près de chez nous, est en train de se réveiller.
Eh ben, on va y revenir après le journal de 8h et voir aussi ensemble ce que vous évoquiez l'un et l'autre, quelles ont été peut-être les conséquences à un moment, les dérives de cette diplomatie des droits de l'homme avec ingérence à la clé qui ont fait beaucoup se rétracter sur leur position suite à cela.